C'est Gros Stick.
C'est Gros Stick sur Radio Campus. Pendant une heure, on va parler de jeux vidéo sur le 88.1. Téléphone antenne 05 57 12 44 37. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet via le site de la radio. C'est quoi, Léo, le site Internet de Radio Campus?
Et c'est radiocampusbordeauxtoutattaché.fr.
Voilà, mais merci beaucoup. Alors ce soir, dans Gros Stick, on va aborder quoi comme thématique, Nathan?
Eh bien, je...
Parce que nous, on n'a rien compris.
Oui, bah, comme à chaque fois que je veux aborder un truc sur cette antenne, personne ne comprend rien. C'est pourtant simple, je me suis posé la question de... comme le jeu vidéo est souvent utilisé en ce moment dans le cadre des études supérieures par des enseignants-chercheurs, et qu'on a vu qu'il y avait des enseignants-chercheurs qui avaient des objets d'études assez récents, comme par exemple, il me semble qu'à Bordeaux-Montaigne, nous avons une enseignante-chercheuse spécialisée en série. Eh bien, je me suis posé la question de est-ce que le jeu vidéo, donc c'est une question ouverte, est-ce que le jeu vidéo pourrait être lui aussi considéré comme un objet d'étude? Parce que sur Internet, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vulgarisent, qui parlent de son histoire, qui parlent de son impact, qui parlent des sociétés, de l'économie que ça génère. Et il y a aussi la question de le jeu vidéo en tant qu'œuvre d'art qui fait que là...
Alors, on n'a pas commencé encore.
On ne va pas faire la thématique
non, mais
avant
c'est
de faire la thématique.
Non, mais c'est les multiples questions qu'on peut se poser. D'accord. Avec le jeu vidéo en tant qu'objet d'étude.
Très bien. Alors, ce soir, dans l'émission, nous avons Mélissa. Salut, Mélissa.
Salut à tous.
On a Nathan, on vient de l'écouter.
Hey, voilà. Hi.
On a Léo.
Et salut.
Et comment tu vas?
Mais ça va très bien.
Et vous tous, qu'est-ce que tu nous proposes? Ça va très bien, mais...
Je vous propose un petit test de Signalis.
Signalis. Voilà.
On verra ça tout à l'heure.
On verra ça tout
car
à
on
l'heure.
Fait pas les chroniques avant les chroniques.
On a aussi Raphaël qui est là pour un test, et ça sera quoi?
Ça sera un test mi-test, mi-matos, parce qu'on va parler d'un jeu qui utilise un accessoire bien particulier.
D'accord. Et Nathan, tu nous proposeras une chronique musicale, il me semble.
Ouais, sur le personnage d'Inesia dans Pokémon.
Voilà, donc toi tu restes dans tes thématiques Pokémon.
Ouais, j'ai envie de continuer cette petite série.
Je sais pas s'il y a un gros stick où on parle pas des Pokémon. Non,
c'est, bah c'est soit ça, soit Genshin Impact.
Oh
ou Destiny 2.
Mais vu qu'il n'y a pas Nicolas, il devrait arriver.
Il arrive dans quelques secondes.
Voilà. Et moi, puisque vous me posez la question,
et oui, Nicolas,
je vous proposerai une chronique rétro. Voilà.
Mais c'est, non.
Parce que ça me ressemble, ça. Là, le rétro gaming. Hein, ça me ressemble.
Ça, c'est bien
Gros
toi,
Stick.
Oui.
La thématique.
Alors, la thématique de Gros Stick, Nathan, t'écoutes, c'est quoi? Non, je déconne. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le jeu vidéo comme sujet d'étude? Voilà la thématique qui nous est proposée par Nathan. Donc, tu as à peu près 25 minutes, cher ami, tu n'as qu'à y aller. T'y vas. Non, non. La question se pose un petit peu à tout le monde autour de la table, et notamment à notre grand béret qui vient d'arriver dans les studios de Radio Campus. Il va prendre place sur son siège noir.
Il reprend son souffle.
Sur
une
son siège en sky noir. Alors,
il pose sa doudoune vert sapin.
Voilà, il pose la doudoune et il va s'asseoir bientôt et on va le saluer. Salut Béret. Non, il veut pas.
Oh là là là.
Il veut pas parler. Il fait son relou. Il fait son relou, mais il s'assoit quand même. Voilà. En tout cas, son micro ouvert, il parlera quand il aura envie. Je parle à troisième personne. Allez, donc je répète la thématique du soir parce que il faut que vous ayez.
J'ai rien compris.
Il faut que vous ayez l'impression, chers auditeurs, que vous avez compris. Donc, c'est est-ce que le jeu vidéo peut être un sujet d'étude? C'est ça.
Ça va.
Et la réponse est oui. Je pense qu'on peut passer aux chroniques.
Ouais. Là, alors, moi, je vais quand même un peu rentrer dedans directement dans cette thématique.
Allez, tape au fond. Raphaël.
Merci, Léo. Non, bah oui. Le jeu vidéo comme sujet d'étude. Ben oui, Nathan, ça s'appelle les Game Studies, C'est tout un champ d'études développé depuis à peu près 2016-2017, je crois, où en fait on parle de tout un port, un, tout un côté. Enfin, c'est un, du coup, c'est un champ disciplinaire qui est directement issu des sciences humaines, où on aborde le jeu vidéo comme objet d'étude, comme médium, vis-à-vis, comme pourrait l'être une série, comme pourrait l'être le cinéma, où du coup, en fait, on se retrouve avec beaucoup d'études sur l'impact du jeu vidéo en tant qu'industrie, l'impact du jeu vidéo en tant qu'art, l'impact où, en fait, où on va parler d'autres sujets au sein d'un jeu vidéo. Ça peut être le racisme, ça peut être les méthodes de narration implémentées dans le jeu vidéo qui sont spécifiques au médium, ça peut être toutes les choses liées au gameplay, liées à la narration plus spécifique. Et tout ça, en fait, s'est développé depuis à peu près du coup quelques années maintenant. Et alors, c'est vrai par contre que du coup, je me rends compte que ici à Bordeaux-Montagne, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas un truc dont il est souvent question, même s'il y a beaucoup de sujets de thèse qui s'en rapprochent. Mais l'idée là du coup des Game Studies, c'est surtout quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres pays. Aux États-Unis, c'est très développé, en Belgique un peu plus,
et nous, on a quand même les Mountain In Game à Bordeaux.
On a les Mountain In Game, mais du coup le pour le coup du cœur comme sujet d'étude, c'est vrai que c'est intéressant parce que on a cet aspect où tous les sujets sont traités en fait du point de vue des universitaires, sur le traitement, enfin de comment un certain jeu, par exemple là Léo va nous parler de Signalis tout à l'heure. Signalis a été très étudié si tu veux, c'est vrai, tu fais ce que tu veux Léo, a été très étudié dans beaucoup d'articles récemment sortis en 2022, vu que le jeu est sorti en 2022, parce que l'horreur dans le jeu vidéo est un sujet qui plaît énormément, et du coup il me semble qu'il y a pas mal d'articles universitaires qui sont sortis dans des revues universitaires aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France il y a beaucoup moins ça. Et moi j'aimerais savoir, est-ce que vous lisez un peu des revues universitaires liées aux jeux vidéo ou pas ?
Pas du tout, pour ma part, parce que déjà je ne m'y suis pas intéressé, je ne saurais même pas dire où on peut les trouver. Alors j'imagine là, comme ça que dans une BU, bibliothèque universitaire, on peut en trouver. Non.
Alors, des revues universitaires, alors il n'y a pas de revue comme au sens pourrait être une revue scientifique. En tout cas, pas à la BU Bordeaux-Montagne.
Ah,
pas celle du campus de Montaigne. Peut-être que sur le campus de l'Université de Bordeaux, il y en a. Mais pour le coup, il y a, il me semble, donc différentes revues. Alors, je ne sais pas s'il y a les revues américaines qu'on peut trouver dans des BU, mais je sais qu'il y a la revue Immersion en France, comme Immersion, I2MERSIONS, donc il y a bien le S à la fin.
Il y a plusieurs immersions.
Voilà, plusieurs immersions. Et justement,
double pluriel.
Exactement, qui traite à chaque fois d'un thème précis par revue, et il me semble que du coup, alors on ne peut plus retrouver les revues 1 et 2 parce qu'ils ont été totalement écoulés, mais il y a le 3, 4, 5 et 6 qui sont disponibles sur leur site, et il y a actuellement un Kiss Kiss Bank Bank pour la 7e, qui devrait être publié en avril prochain et qui va aborder l'adolescence japonaise et qui va du coup utiliser pas mal d'articles universitaires. Je fais tout de suite la pub parce que moi j'aime beaucoup cette revue et j'ai envie qu'elle soit publiée. Donc c'est 30€ sur KissKissBankBank. Allez me financer ça parce que franchement moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est toujours très intéressant, puis ça apporte beaucoup de clés de compréhension sur le jeu vidéo.
Est un lobby. Oui, Mélissa.
Alors moi je vais te dire des choses pas très cool, je vais être la roulou de la soirée.
Oh, vas-y.
Alors je suis un peu fâchée avec le milieu académique parce que peut-être que je me trompe, mais je trouve que les Game Studies c'est quelque chose de niche. Alors je sais pas combien de joueurs s'intéressent vraiment à des...
C'est peut-être pas pour les joueurs justement.
Ben justement, et c'est la question que je me pose. Alors moi je me suis renseignée un peu, donc je pense qu'on peut pas traiter, analyser un jeu vidéo comme on traite un livre ou une œuvre de littérature. D'ailleurs, il y a deux méthodes approuvées, qui sont mises en place. Il y a la ludologie et la narratologie. C'est-à-dire la ludologie, ça s'intéresse aux mécaniques du jeu, de qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un jeu, en fait, c'est un objet ludique, quels effets et impacts ça peut éventuellement aussi avoir sur le joueur. Et la narratologie, ça s'intéresse plutôt à ce que le jeu raconte. Donc il y a quand même des choses intéressantes, et puis je pense que le jeu vidéo peut tout à fait être un objet d'étude sérieux, tant d'un point de vue sociologique. J'ai vu qu'il y avait des études pendant le confinement qui sont sorties sur l'impact et les effets du jeu vidéo en période de confinement. Certains jeux ont été traités comme Pokémon Go, si certains jeux peuvent effectivement pousser les joueurs à adopter d'autres habitudes, à sortir de chez eux, par exemple. Mais alors, moi, j'ai peur aussi que... Est-ce qu'on part pas vers trop de théorisation ? Est-ce qu'on théorise pas quelque chose qui est pas forcément théorisable, ou peut-être c'est pas nécessaire de pousser l'analyse jusqu'au bout, à part pour des passionnés ou des très intéressés, mais est-ce qu'au final, faire absolument une recherche très poussée dessus, est-ce que ça a vraiment un impact sur la communauté des joueurs et sur le jeu vidéo en général ? Donc il y a ça qui me... c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on rend pas quelque chose qui est avant tout un objet ludique, académique, pour rien ?
Léo.
Et la réponse est oui, Mélissa, c'est nécessaire, évidemment. C'est comme les commentaires de texte hein, pour des livres. En tout cas, c'est comme ça que je vois maintenant l'étude des jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un loisir, et je suis entièrement d'accord, mais c'est devenu autre chose. C'est quelque chose qui pèse autant que le cinéma dans la culture populaire et dans l'industrie, donc c'est devenu nécessaire et naturel de l'étudier. Et je pense que pour ça aussi, maintenant, on peut tout simplement aussi se tourner vers les magazines de la presse spécialisée, même s'il n'y en a plus beaucoup. Il y a des sites internet en papier, il reste quoi, Canard PC ou JV Le Mag ?
Oui,
c'est ça. Et en fait, maintenant, avant, les magazines de jeux vidéo, c'était purement des guides d'achat, hein, c'était cohérent, c'était la seule manière de se renseigner, de savoir si un jeu était bien. Mais maintenant, c'est plus cohérent parce qu'on a ces informations directement avant même que le jeu sorte. Donc, ce que font maintenant les magazines de jeux vidéo, c'est des analyses, en fait, où ils creusent un peu le sujet de jeux vidéo, de points qui, nous, en tant que joueurs, on a forcément rencontrés. Ça peut être des éléments de gameplay, des ambiances, des manières de raconter une histoire. Et en fait, ils creusent ça, ils posent des questions en faisant leur travail de journalisme et ça apporte une réflexion en fait, aux lecteurs, aux joueurs, ou non d'ailleurs. Il y a plein de personnes qui lisent Canard PC, par exemple, et qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo, mais qui s'intéressent à ce que ça devient, en fait, à cette réflexion autour du jeu vidéo. Et c'est vraiment super intéressant.
Raphaël, après Mélissa. Alors, du coup, et peut-être moi, entre-temps, on verra.
Bah, c'est toi qui vois, hein, tu t'incrustes quand tu veux.
On verra.
Donc, pour
je m'incruste maintenant.
Pour revenir sur vos deux prises de parole, alors du coup, premièrement, oui, hein, faut que ça soit étudié quand même le jeu vidéo, parce que pour moi, c'est comme le cinéma, c'est comme la littérature, hein, ça mérite d'être étudié. Et pour revenir aussi sur ce qu'a dit Léo, il y a un truc important dans les Game Studies que moi j'ai appris notamment en lisant le livre de Mehdi Derfoufi qui s'appelle Racisme et jeux vidéo, où en fait, il a aussi un regard critique sur les Game Studies, comme quoi en fait, il faut aussi se montrer réaliste sur comment on traite les choses et comment ça s'est passé. Et en fait, il expliquait que au début de l'arrivée des Game Studies, il y a eu en fait cette reprise du discours qu'on a tenu pendant très longtemps sur l'histoire du jeu vidéo, sur comment ça s'est passé au niveau notamment du crash de 83, de la prise de pouvoir, de la guerre des consoles, Nintendo, Sega, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces histoires... C'est issu d'histoires de cours de récré, bien souvent. C'est issu de choses de cours de récré, puis après qui ont été repris par des journalistes. Et le problème, en fait, c'est que pour l'époque, les journalistes dans les vieux magazines, hein, dans les joysticks, dans les joypads, ils n'étaient pas tous ils n'avaient pas tous cette formation en déontologie journalistique. Et on se retrouvait beaucoup avec des fans, hein, des passionnés, ça je n'en doute absolument pas, mais qui avaient ce manque de sérieux. Et en fait, on s'est retrouvé avec des trous dans l'histoire du jeu vidéo qui ont été comblés par les universitaires. Et on sait notamment, en fait, c'est comme ça qu'on sait maintenant, hein, que le crash de 83 n'a touché principalement que les États-Unis. Qu'au Japon, ça n'a pas été question. Et même en France, on était déjà, dans les années 80, on était encore dans cette idée du shareware, ou enfin du shareware, pas dans le sens l'a développé Doom, mais dans le sens où un petit jeu que les gens codaient chez eux, ils se le passaient entre eux, en fait, parce que les logiciels se partageaient plus entre aficionados d'informatique. Et cette idée, tout ça, du coup, de remettre en question l'histoire du jeu vidéo, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire dans les Game Studies et qui est en train d'être fait, notamment, du coup, dans le livre de Mehdi Derfoufi sur le racisme, la question du racisme, mais surtout, en fait, même dans la presse spécialisée, parce qu'il faut aussi, du coup, comprendre que les articles qui sont écrits, notamment par des universitaires, là, dans ma tête, il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Esteban Green, je crois qu'il s'appelle, qui écrit notamment, qui fait toute une thèse et un travail de thèse sur Earthbound, donc les Earthbound et Undertale, donc qui sont des jeux très inspirés l'un de l'autre, tout ça, qui sont des RPG donc sortis sur Super NES de base Non, peut-être le premier, premier Mother, du coup Mother 1, Earthbound Origin, je crois qu'il a été appelé comme ça, sorti sur NES, puis Earthbound 2, enfin Earthbound de base. Mais Mother 2.
Tu t'en sors pas du tout avec Earthbound.
C'est parce que le problème, c'est qu'il y a un nom japonais, il y a un nom américain, il y a un nom anglais. Et,
faut trancher.
Bon, donc Mother 2, a.k.a. Earthbound.
Respire, Raphaël.
Oui, pardon. Mother 2, du coup, et après, il y a eu Mother 3, sorti sur Game Boy, qu'on n'a jamais eu, merci, qu'on n'a jamais eu en Europe. Oh, je tourne en rond. Bref, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est qu'en fait, ces travaux d'universitaires, eh ben, ils subissent quand même le même passage que tous les autres articles universitaires. Ils sont relus par des pairs. Et c'est ça qui est très important, la relecture par les pairs. Là où, en fait, dans le journalisme jeux vidéo, on a certes des rédacteurs en chef dans les magazines, mais l'idée, en fait, de cette relecture par des gens qui ont été approuvés, il y a une sorte de protocole dans le corps universitaire qui fait qu'on s'assure une connaissance plus claire du média, de l'industrie et de tous les tenants et aboutissants de l'industrie et comment ça s'est construit.
Moi, j'ai pas un avis très tranché en fait sur la question est-ce qu'il faut étudier le jeu vidéo, est-ce que le jeu vidéo peut être un objet d'étude à part entière comme peut être par exemple la littérature, le cinéma, la musique, etc. En termes d'histoire, de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr, qu'il faudra à un moment donné qu'on s'y penche dessus. Il y en a certains, comme tu le disais, qui ont commencé à le faire, même si je trouve que l'histoire du jeu vidéo est très récente, en fait.
Oui.
Et pour moi, on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour écrire et analyser et faire de la recherche au niveau de l'histoire du jeu vidéo.
Mais justement, voilà. C'est un peu ce qui est en train d'être fait quand même, en tout cas sur les années 50 à 80, qui sont vraiment création puis industrialisation,
oui, bon,
et commercialisation.
50
du jeu,
à 80, c'est pas, on va dire, la période la plus intéressante, je pense, du jeu vidéo. C'est les prémices, c'est le passage, on va dire, du jeu de société ou du jeu, on va dire, physique au jeu vidéo, au jeu virtuel. C'est pas le plus intéressant. Voilà.
Après, là, pour le coup, c'est aussi cette idée de connaître cette histoire, mais pas que du prisme des États-Unis qu'on a eu pendant très longtemps. L'idée, c'est aussi d'incorporer les points de vue des pays issus d'Afrique ou des pays asiatiques qui, eux, ont beaucoup, pendant très longtemps, en fait, ont été invisibilisés sur ces questions-là.
Donc, après, au niveau artistique, le jeu vidéo, là, oui, clairement, au niveau artistique, on peut faire. Ça peut être un objet d'étude, mais après, moi, je trouve que quand le jeu vidéo se rapproche trop des autres médiums, comme le cinéma ou la littérature, etc., où il emprunte beaucoup à ces genres-là, je trouve que l'analyse, enfin, un travail de recherche sur ces éléments-là, je rejoins un petit peu Mélissa, je trouve que c'est pas forcément hyper opportun. Voilà.
Je ne suis pas forcément d'accord pour le coup sur ce point-là.
Ce que je trouve qu'il y a de plus intéressant dans le jeu vidéo et dans la recherche qu'on peut faire sur le jeu vidéo, c'est la question de l'interactivité. Parce que c'est le seul médium qu'on a cité qui garantit cette interactivité. À part peut-être certaines performances artistiques ou installations qu'on peut voir dans certains musées par certains artistes d'art contemporain qui s'intéresse à l'interactivité de l'œuvre dans un musée. À part ça, et c'est quand même embryonnaire, le jeu vidéo a tout à gagner à être analysé à travers le prisme de cette interactivité, puisque c'est le seul médium qui permet ça pour moi. Donc oui à ce niveau-là. Après, quand ça se rapproche trop du ciné et tout, bof.
Mais justement, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est ça se rapproche pas du ciné. Parce que en
c'est
soi,
issu du cinéma.
C'est issu du cinéma, mais est-ce que c'est toujours issu du cinéma ?
Non, pas toujours.
Non, c'est un non, non. Maintenant, ce n'est plus issu du cinéma. C'est un loisir, un milieu qui a grandi, qui certes a été créé à partir d'autres arts déjà existants, mais qui maintenant n'est plus du tout. Il ne prend plus ses racines dans le cinéma ou dans n'importe quel autre.
Un jeu de Kojima ne prend pas racine dans le cinéma.
Il s'est inspiré à la base, mais il a son propre langage maintenant.
Ouais, mais Kojima, c'est différent parce que Kojima, c'est devenu un genre d'auteur, quoi.
Et en plus, là, toi, tu parles d'une catégorie très spécifique qui est les jeux vidéo
contemplatif ou qui essaye de se rapprocher du cinéma. Mais c'est pas l'ensemble du jeu vidéo qui essaye de se rapprocher du cinéma.
C'est pour ça que quand je dis que le jeu vidéo se rapproche trop du cinéma, etc., pour moi, il est moins intéressant dans son étude.
Une approche plutôt ludologique, du coup, pour, du côté
et,
de.
Et tu sais, moi, je joue beaucoup. Les jeux que je joue, moi, ne se rapprochent pas du cinéma, du coup. Donc, oui. je sais bien qu'il y a certains jeux qui s'écartent complètement de ce type de narration cinématographique. Oui, Raphaël. Non, peut-être qui.
Non, c'était Nathan.
Non, mais en vrai, vous avez répondu plus ou moins.
Oh, mais non. Oh, développe.
Non, mais en gros, je suis pas ton. Oh là là, excusez-moi. Je suis pas totalement d'accord avec le langage. Pour moi, le jeu vidéo a encore besoin de trouver son propre langage. Au peu de jeux que je joue en ce moment, j'ai pas spécialement l'impression qu'il a réussi véritablement à prendre son indépendance. Et malgré tout, si on regarde purement comment est fait un jeu vidéo, il y a l'interactivité qui sort du lot. Mais ce n'est rien qu'un mélange de dessin, musique, film. C'est comme ça que je vois le jeu vidéo. Et pour moi, ça pose problème. Et il faudrait qu'il trouve, par son interactivité, l'interactivité qui le rend unique. Mais ce n'est pas assez suffisant pour que ce soit étudié du point de vue artistique. Parce que les gens vont tendance à vouloir faire beaucoup trop de comparaisons.
Je vais mettre ma bille de suite.
Mettre ma bille aussi. Hein, mais...
Voilà, je me permets. Je suis pas du tout d'accord parce que quand tu dis que c'est un mélange de trois univers qui sont le dessin, la musique et les images en mouvement ou le gameplay en soi, mais c'est pas vrai. Ou même si c'était vrai, c'est pas un argument vu qu'en soi, tu peux faire le même argument contre le cinéma. Le cinéma, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est du dessin qui a été mis en mouvement. On a mis des effets sonores, de la musique dessus.
Le cartoon ?
Non,
pas le cinéma.
À ce moment-là, c'est du théâtre.
À ce moment-là, c'est de la photographie qui a été mise en mouvement. En fait, si tu commences à t'interroger sur l'origine de chaque art, tu vas tout de suite te rendre compte que l'art, dans le sens large du terme, avec un grand A, ça s'inspire de tous les milieux qui existent, en fait. Ou de beaucoup de milieux qui existent. Et le but... Je pense que là, en fait, on fait fausse route. Le but, c'est pas de se dire est-ce que tel art est plus légitime que l'autre. C'est pas la question
mais
qu'on
c'est pas
pose.
Ce qu'on a dit.
Oui, mais c'est un peu dans ce qu'on est en train de dire parce qu'on dit que le jeu vidéo n'a pas encore trouvé son langage. Là, je suis pas d'accord parce qu'en soi, là, on commence enfin à avoir un jeu vidéo n'est pas du tout. Est-ce qu'un jeu vidéo est créé de la même manière qu'un film ? Non. Est-ce qu'un jeu vidéo est créé de la même manière qu'une bande dessinée, qu'une musique ? Non. Il a son propre méthode de langage, son propre système marketing, son propre rapport à la clientèle et aux joueurs, en fait. Donc, pour moi, est-ce qu'on est arrivé à un langage qui se suffit à lui-même ? Je pense pas. Je suis d'accord avec toi que ça va continuer à évoluer. Mais pour moi, on n'est pas... Il est autant légitime et il a autant son langage, qui certes est peut-être plus récent, mais il a son langage comme les autres formes d'art. Et je pense que par rapport à ça, il faut l'étudier.
Moi, je vais revenir quand même là-dessus. C'est vraiment cette idée de langage. On se rend compte qu'au final, c'est un peu la même chose qui fait qu'en fait, le cinéma, c'est pas comme du théâtre filmé, quoi. C'est pas juste du théâtre filmé. Le cinéma, il y a toute cette idée de mise en scène. On place pas une caméra juste pour placer une caméra au cinéma. Ça a du sens. Et le truc, c'est qu'on a ça aussi au jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, la caméra aussi, on la place pas comme on veut. Mais il y a cette idée que chaque objet dans un jeu vidéo peut avoir du sens, peut être promulguer des émotions ou quoi que ce soit. Chaque appui d'une touche peut avoir un effet via le gameplay, via l'interaction. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, moi, je pense, dans cette histoire de langage dans le jeu vidéo. C'est ça, en fait, qui est question réellement quand on parle d'analyser le jeu vidéo. C'est toutes ces petites choses qui font qu'un jeu vidéo, c'est pas juste un film interactif ou c'est pas juste... Un film sur lequel la BO serait un peu différente ou juste qu'on puisse se déplacer librement dans un espace interactif. Il y a quelque chose de plus dans cette idée de langage. C'est que chaque chose peut avoir son sens et chaque chose et respectivement entre des jeux et partagés. Tu vois, c'est une grammaire qui est accumulée entre différents jeux. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est mis en avant un peu partout, que ce soit dans les recherches universitaires ou même tu parlais des vulgarisations sur YouTube, sur YouTube ou même dans la presse journalistique jeux vidéo. C'est un peu ça aussi qu'ils essayent de mettre en avant, je pense. Tu vois, il y a beaucoup plus à faire, je pense, là-dessus pour que le grand public aussi se rende compte de tout cet aspect-là.
Mélissa.
Oui, alors moi, je me pose la question de tout simplement déjà quelles sont les intentions des Game Studies ? C'est quoi le but des Game Studies ? Est-ce que c'est d'apporter un éclairage sur le jeu vidéo ? Et si oui, dans quel sens ? Alors, l'interactivité, je trouve ça très intéressant, je suis assez d'accord. Mais moi, enfin, pour moi, s'il faut étudier le jeu vidéo, ce serait plus par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les joueurs, plutôt que sur faire de la recherche pour faire de la recherche. Pour moi, ça n'a pas trop de sens, parce que Léo le disait, pour moi, un article d'un passionné, d'un journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, ça a autant de valeur qu'un sujet de recherche. Si moi, par exemple, je suis fan d'un jeu, par exemple Shadow of the Colossus, et que je veux faire plus de recherche, je sais qu'il y a déjà une communauté de passionnés, avec des théories, peut-être des gens qui ont pensé le jeu. Enfin, tout ça, ce sont des ressources qui sont disponibles à la fois sur Internet et dans des revues plus ou moins.
Mais tu pourrais très bien faire l'analogie avec le cinéma. Un critique de cinéma n'est pas pareil qu'un chercheur en cinéma.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais alors, moi, c'est vrai que... Moi, du coup, je suis doctorante et il y a des choses qui me hérissent un peu le poil. Je trouve que... Enfin, je vais être hyper claire. Il y a des sujets de recherche qui ne servent à rien. Il y a des... Enfin, c'est pas... Enfin... Je veux dire, au niveau de la recherche, il faut aussi se poser la question de
la portée.
De la portée de la recherche. Donc moi, je ne suis pas contre que quelqu'un de passionné se dise que « Ah ben super, maintenant aujourd'hui, il y a des Game Studies et moi, j'aimerais bien peut-être en faire une carrière ou au moins l'étudier pendant quelques années et pousser le sujet plus loin. » Mais c'est comme je prends quelque chose de plus classique en littérature. La recherche en littérature, c'est quelque chose de très courant à la fac. Et combien de gens veulent faire un mémoire sur Harry Potter parce qui kiffe Harry Potter, mais est-ce que ça a une utilité, est-ce que ça a une portée, alors qu'il y a déjà des ressources, déjà de fans et peut-être de gens qui ont une réflexion littéraire beaucoup plus construite qui est déjà disponible. Donc faire de la recherche sur les jeux, oui, mais développer la recherche sur les jeux à outrance sans que ça ait une portée concrète, pour moi, non.
Béret, mais ça sera le mot de la fin sur cette thématique.
Mais je te rejoins là-dessus, Mélissa, mais je pense que c'est un peu la séparation qu'on évoque depuis tout à l'heure par rapport à ce sujet qu'est le jeu vidéo comme objet d'étude. C'est qu'en fait, il faut distinguer quelqu'un qui va être plus un chroniqueur, on pourrait dire, et quelqu'un qui va être vraiment un chercheur. Parce que comme tu le dis, il y en a très... Et c'est pas une critique en soi négative, c'est juste une réalité. C'est qu'en fait, il va y avoir des gens, comme tu dis, quand tu prends l'exemple d'Harry Potter, qui vont vouloir parler d'un sujet, mais parce que le sujet leur plaît, et c'est pas dans un but de réflexion, on va dire, ou d'apporter, ou de répondre à une problématique, en fait, à un problème qui existe, ou à une réflexion, quelque chose de ce style. Et c'est là où je te rejoins, en effet, c'est... Le jeu vidéo, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on le...
L'aborde.
Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on l'aborde, en fait, et par quel prisme on le prend ? Parce que, par exemple, pour Mountain Game, c'est ça qui marche bien, c'est que le prisme par lequel on aborde le jeu vidéo, c'est l'histoire. Et donc, c'est tout de suite très intéressant quand on s'intéresse à la construction de GTA V, comment les PNJ et la société qui est représentée est construite, comment est-ce que, dans un jeu plus historique comme Kingdom of Deliverance, quelle est la place de l'histoire dedans et quelle est la place du gameplay ? Là, de suite, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'il y a deux choses qui sont mises en réflexion. Et je pense et j'espère qu'on verra de plus en plus des sujets de ce style qui aborderont le jeu vidéo par différents prismes de ce style.
La chronique musicale.
La chronique musicale, c'est avec Nathan. Il faut que tu me fasses signe si tu veux que je lance des petites musiques sympas.
Je te ferai signe. Pokémon et le monde de la mode ont souvent fait la paire. Que ce soit les différentes personnalités étant des top modèles qu'il nous ait été donné de rencontrer, les différents mannequins ou amateurs de la mode que l'on peut affronter sur les routes, ou bien la personnalisation des habits qui arrivera dans les générations les plus récentes, la mode est omniprésente. Et c'est pour cette raison que je reviens aujourd'hui sur une nouvelle musicale axée sur les personnages marquants de la licence Pokémon. Et cette fois-ci, on va braquer les projecteurs sur la championne Inezia. Je sais qu'à la base, j'avais prévu, dans un premier temps, de me concentrer sur les maîtres de la Ligue. Mais j'ai trouvé qu'Inesia serait un hors-série très sympa à faire, puisque c'est la championne d'arène de la ville de Méanville. Méanville est une zone basée, inspirée pardon, de Coney Island, zone de New York très connue pour ses parcs d'attractions, ce qui signifie que Méanville abrite elle aussi de multiples activités. D'autant plus que c'est la ville la plus peuplée de la région du Nice. Vous n'êtes pas sans savoir que la cinquième génération de Pokémon a eu deux versions, Noir et Blanc ainsi que Noir et Blanc 2. Ces deux versions ont énormément de différences, notamment sur le traitement musical des arènes, qui est assez unique. Là où habituellement dans les jeux Pokémon, tout le monde est logé à la même enseigne, dans Noir et Blanc 2, chaque arène a une ambiance musicale qui lui est propre. Et je dois dire que je trouve ça absolument génial. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi Game Freak n'a pas continué ce concept dans les jeux postérieurs à Noir et Blanc 2, mais bon. Reconcentrons-nous sur Inesia. C'est une championne de type électrique délivrant le badge Volt. C'est une mannequin très populaire auprès de la population. Et dans le jeu, on la verra aider nos acolytes à une de nos acolytes. Une de nos acolytes à prendre son indépendance et se libérer de la pression de son père. Ce qui lui donne un certain capital sympathie. Dans le premier Noir et Blanc, la reine est sur le thème des montagnes russes. Bon, pourquoi pas, après tout, Méanville étant la ville du divertissement. Mais heureusement, dans Noir et Blanc 2, il a été décidé que la reine soit un runway, ce qui est quand même vachement plus pertinent, sachant que Inesia est une top modèle. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le thème de la reine évolue au fur et à mesure de notre progression. Quand on débarque dans l'arène, on se retrouve effectivement face à un podium de défilé. Une longue rampe très éclairée avec quelques jeux de lumière très discrets et un public très nombreux sur les côtés qui est plongé dans l'obscurité. On avance et on tombe sur les dresseuses chargées de nous barrer la route avant la championne. La musique qui était jusqu'à maintenant un rythme électro très redondant et puissant, agressif même, va se transformer en avertissement narquois avec un rythme plus lancinant et l'incrustation de voix qui nous demande si nous sommes prêts. Plus on avance, plus les voix sont présentes. On sent qu'on est attendu, un peu comme si la voix d'Inesia nous réclamait, une sirène posée sur son rocher essayant de nous faire chavirer le cœur, comme Ulysse. Mais enfin, arrive le moment tant attendu. Sous trois douches de lumière soulignant tous ses meilleurs profils, la reine de ces lieux fait son apparition sous une foule en folie. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette musique, c'est comment elle décore les lieux de la reine. Rien que dans les visuels, on arrive à sentir quel type de personne est Inesia, du moins quel type d'image elle entretient. Un personnage fier, séducteur, provocateur et over the top. On pourrait aussi faire le même constat que sur ma chronique sur Bayonetta. La musique est un bijou venant par Inesia, histoire de la faire briller encore plus qu'elle ne l'est déjà. C'est selon moi une des championnes les plus mémorables du jeu, et je ne suis manifestement pas le seul à penser ça. Et oui, Inesia semble aussi rassembler quelques fans dans la vraie vie, car rien que sur YouTube, on peut trouver beaucoup de remix ou de remasters de ses musiques. Enfin, des musiques qui l'accompagnent, quoi. Mais on peut aussi trouver des thèmes musicaux faits par les fans. Pendant mes recherches, je suis tombé sur des fanman themes, donc des OST faites par les fans. Je me suis perdu dans mes notes, pardon.
Ça arrive.
Oui, voilà, merci. Merci Léo.
Léo vient d'aider.
Et je suis tombé sur le fanmade du youtubeur Raouchna. Celui-ci en a créé deux pour Inesia, une pour coller avec la région de Galar, donc celle de Épée et Bouclier, et une autre pour coller à la région d'Épée Bouclier, Violet et Écarlate, donc la dernière en date. Selon moi, ça prouve qu'une chose, les fans attendent le retour de plusieurs personnages, et l'exubérance d'Inesia en fait partie. Je vous laisse donc avec le fan mad team fait par Raouchna pour Galar, et je vous dis à dans deux semaines. We'll be right back.
rétro.
Aujourd'hui, j'ai en charge la chronique rétro, ce qui me ressemble un peu. Au programme, un shoot'em up de 1994, Gokujo Parodius de Konami. Oh. Un shoot'em up au scrolling horizontal, parodiant la série culte Gradius, également signé Konami, évidemment.
Est-ce que tu peux nous expliquer scrolling?
Non. Non. L'idée de parodier le verre... L'idée de parodier le vénérable père fondateur du genre Gradius est née en 1988 sur micro-ordinateur MSX, un système que le développeur japonais privilégiait pour les adaptations de ses hits venus des salles d'arcade. Le concept de Parodius est de tourner en dérision l'univers un peu austère de Gradius en plongeant le célèbre vaisseau Vic Viper dans une ambiance beaucoup plus sympathique, édulcorée, gorgée de couleurs, d'humour et d'animations farfelues, voire un petit peu coquine. En arcade, Parodius fait ses grands débuts en 90, au casting 4 personnages au choix, le vaisseau Vic Viper de Gradius donc, est accompagné de personnages un petit peu plus loufoques, comme l'Octopus, un poulpe volant, Twinbee, issu du jeu du même nom, et Pentaro, un petit pingouin bleu. Le deuxième opus, Gokujo Parodius, sort 4 ans plus tard, et c'est la version qui nous intéresse aujourd'hui. Comme souvent, les deuxièmes opus, comme dirait Léo, ou opus, comme diraient tous les autres, pousse le concept de départ toujours plus loin. C'est le cas ici également. 8 personnages disponibles pour partir à l'aventure, donc Vic Viper, Takosuke, c'est toujours notre bon vieux poulpe, Twin Beast, toujours pareil, Pentaru aussi, mais cette fois-ci, il y a aussi Hikaru, une bunny girl à califourchon sur un missile. Mambo, un poisson rappelant le jeu Space Mambo, que peu de gens connaissent, c'était un shoot'em up sorti en 89 sur MSX. Il y a aussi Michael, un cochon ailé, auréolé, et enfin Koitsu, un stickman ou homme bâton, fièrement debout sur un avion en papier. Comme dans Gradius, le joueur devra diriger son vaisseau ou son personnage dans les nombreux niveaux que compte le jeu, 9 au total, afin de triompher du gros poulpe de la mort, cerveau de la menace. Toujours comme dans Gradius, vous disposez d'un arsenal qui est géré par une barre d'options située en bas à gauche de l'écran de jeu. Certains ennemis détruits dans le jeu libèrent des items qui vous permettent d'activer certaines options de votre barre, à savoir des speed-up pour accélérer votre personnage, des tirs secondaires, de nouvelles armes, des power-up et un shield. Le côté parodique de la plupart des personnages se retrouve aussi dans leur armement et dans la représentation graphique des boucliers. Par exemple, Koitsu, notre stickman, balancera plein de congénères en guise de bombe et son shield prendra la forme d'un préservatif géant protégeant la cohorte de stickmen et l'avion en papier.
Protégez-vous.
Et oui, c'est un beau message que Konami lançait en 1994. Il restera vulnérable aux attaques venant de l'arrière par rapport... C'est normal, un préservatif.
Non, voilà. Ben oui.
Cette représentation d'un pénis à travers une capote tendue devait être rare dans les jeux vidéo à l'époque, et même aujourd'hui, c'est encore plus rare. Les décors de Parodius explosent la rétine de couleurs et regorgent d'une multitude de détails ou de scénettes à observer. Le premier niveau donne le ton, puisque vous vous retrouvez dans une ambiance de fête foraine, avec en guise d'ennemis des machines à pinces qui attrapent des peluches, une énorme pancarte Konami qui peut vous écraser, ou encore un panda géant qui s'adonne à la danse classique en tutu rose avec un canard en guise de couvre-chef. Konami est allé très loin dans le délire, et leur sens de l'humour fait plus que mouche, puisqu'il provoque très souvent l'hilarité du joueur. Les autres niveaux proposent également beaucoup d'autres joyeusetés. On peut citer un énorme bateau-chat, un monde en gâteau, une course-poursuite effrénée avec des poules vénères, des panneaux de signalisation tueurs, une danseuse géante, etc., etc. Parodius fait appel à des mythes et des légendes japonaises pour peupler les différents niveaux du jeu, tout en saupoudrant le tout de clins d'œil plus ou moins appuyés à d'autres jeux vidéo. C'est le cas notamment lors d'un niveau bonus qui intervient aléatoirement après le deuxième stage. Vous affrontez un énorme vaisseau qui peut rappeler le shoot'em up R-Type tout en incluant des figures mythiques de la saga Gradius, les célèbres Moai, ces énormes statues de l'île de Pâques qui passionnent les scientifiques mais aussi les complotistes. sont des ennemis qui sont récurrents dans la saga des Gradus. Dans ce Parodus, une énorme tête de Moai, un petit peu salace, vous crachera à la gueule des obus phalliques qui sont en fait d'autres Moai verts qui tournent sur eux-mêmes.
Camoulox.
Ce Moai gigantesque émet des bruits vraiment chelous. À l'instar de l'immense sirène, boss du deuxième niveau, qui vous attend dans sa tenue, plutôt déshabillée. Le dessin est magnifique, l'animation impressionnante. La sirène fait tout l'écran de jeu, vocifère des kanji meurtriers et vous donne des coups de queue en provoquant une vague sur laquelle vous ne pourrez pas surfer. Quand vous la blessez, on entend un son qui sème le doute. Souffre-t-elle ou prend-elle son pied? On ne sait pas trop. Bref, humour, second degré, plaisanterie borderline, il y a tout et n'importe quoi dans ce Parodus. C'est un excellent shoot'em up, à la difficulté très corsée. Ce n'est pas parce que le jeu est kawaii, coloré, acidulé et bon enfant que le challenge est abordable. Au contraire, le jeu est rempli d'un nombre colossal de pièges en tout genre. Les développeurs de chez Konami ont été plus sadiques que jamais en vous obligeant à prendre un maximum de risques si vous souhaitez obtenir le meilleur score possible. Pour scorer, il va falloir attraper un maximum de cloches dorées. Je m'explique. Quand vous voyez un aigle royal, ou plutôt un pigargue, pour être... et c'est vraiment un pigargue,
okay.
pour être précis, qui vous fait face, tirez-lui dessus. Il libérera alors 6 cloches dorées. Mais attention, quand vous tirez sur les cloches, elles changent de couleur et de particularité. Une cloche dorée augmentera votre score par palier, 500 points la première cloche, 10 000 points la sixième. Une fois le palier de 10 000 points atteint, chaque nouvelle cloche dorée vous fera gagner 10 000 points, c'est clair ?
Ouais.
Ouais. Si vous laissez passer une cloche dorée, vous retombez bien sûr à 500 points. Pour scorer, il ne faudra donc pas rater une seule cloche dorée. Si la cloche devient bleue, vous générez alors une bombe qui tue tous les ennemis à l'écran, tandis qu'une cloche verte, par exemple, vous rendra invincible. A vous de choisir si vous cherchez le meilleur score ou aller le plus loin possible dans le jeu. Dans ce cas, les cloches vertes seront vos alliés. Perso, je cherche à obtenir le meilleur score, car je participe chaque mois à un challenge de scoring sur des shoot'em up. Le jeu du mois, c'est donc ce Gokujo Parodus. Collecter les cloches dorées est un véritable enfer. Vous serez tellement omnubilé par cette chasse que vous allez en oublier les pièges tendus par le jeu et donc mourir. Prendre des risques pour choper les cloches constitue la plus grande difficulté d'un jeu qui par essence propose déjà un challenge ultime. Ça fait un mois que je vois des cloches partout. Je ferme les yeux, des cloches. Avant de dormir, des nouvelles cloches. Dans mes rêves, des cloches. Dans mes cauchemars, d'autres cloches. Je suis devenu moi-même une cloche.
Non.
Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? En tout cas, pour le moment, je loupe le coche. Le jeu a été adapté sur Super Nintendo dans une version augmentée de 3 nouveaux personnages. Donc ça fait 8 plus 3, 11.
11, oui. C'est ça.
Et à la difficulté plus abordable. Les versions PlayStation et Saturn sont très fidèles à l'arcade. Deux autres épisodes de la saga Parodus sortiront après celui-ci, apportant de nouvelles folies. A noter que les musiques de Parodus parodient de grands thèmes de la musique classique, de Johann Strauss à Rossini, il y a aussi du Wagner qu'on peut écouter, j'en passe, et des meilleurs. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette chronique rétro. On continue avec le test, et notamment Béraphaël.
Le test.
Le jeu vidéo est-il un sport ? Quelle drôle de phrase pour commencer un test.
La thématique, c'était avant.
Ouais. Vais-je parler sport aujourd'hui ? Oui, clairement. Mais ce que je vais faire, c'est remettre les pendules à l'heure. Tout d'abord, orientons-nous vers une définition exacte. Selon le dictionnaire Le Robert, la définition du sport est la suivante. Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Bon, si ça vous dit quelque chose, c'était le début de la preview d'Hadès.
Moi, ça me dit quelque chose. Hein.
De Mélissa, il y a déjà 2 semaines. Et je tiens quand même à dire que Mélissa a cité le yoga comme exemple d'activité physique plus éprouvante que le jeu vidéo. Ce qui est catégoriquement vrai, hein, mais pas entre marcher et faire le ménage, Mélissa. Mais bref, le jeu vidéo
est un peu abusé sur certains points.
Est-il un sport ? Ben je m'en fous. Car ce qui compte, c'est que ce dernier peut nous faire du sport. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous montrer le côté sportif du paysage vidéoludique grâce à un jeu et surtout grâce à son fabuleux accessoire qui en a fait suer plus d'un. Ce soir, je vous parle d'un jeu Nintendo. Ce soir, c'est Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure, donc, sorti en 2019 sur Nintendo Switch, est un mélange de jeu de rôle et de rail shooter. Le titre ne se joue pas qu'à l'aide des Joy-Con, mais aussi avec deux accessoires. Le premier, une sangle de jambe, mais que vous accrochez donc au milieu de votre jambe gauche, dans laquelle on fait glisser le Joy-Con gauche dans une petite poche prévue à cet effet et qui a pour objectif de savoir si vous bougez vos jambes. L'autre accessoire, c'est celui qui donne le nom du jeu, le Ring-Con, un nano-manette auquel on agrippe le Joy-Con droit. L'anneau est rigide et a pour but d'être pressé et étiré afin de faire travailler vos muscles. Alors, il ne faut pas trop avoir peur de déformer l'accessoire puisque ce dernier est vraiment solide et permet de réaliser de nombreux exercices variés. Mais dans quel contexte faisons-nous du sport dans Ring Fit Adventure ? Eh bien, premièrement, il existe divers modes de jeu, tels que des activités physiques libres ou même toute une sous-partie jeu de rythme pour accomplir des sessions d'exercice au rythme des différents morceaux de la bande-son du jeu ou des pistes issues de Mario Odyssey, Breath of the Wild, voire Wii Fit. Mais le
on
mode
n'est pas
de
la
jeu...
télé.
c'est pas très radiophonique ce qui se passe en studio.
C'est pas grave. C'est bien le plus réussi puisqu'il s'agit du mode aventure. Dans ce mode, nous incarnons un sportif ou une sportive que nous pouvons personnaliser selon nos envies. Au début du jeu, notre protagoniste va faire la découverte de Ring, une ancienne relique renfermant un pouvoir oublié depuis des siècles. Influencé par une voix dans notre tête, nous étirons l'anneau, détruisant par conséquent le sceau qui emprisonnait le maléfique Drago, un grand dragon noir anthropomorphe, bodybuildé, portant un magnifique juste au corps noir et rose, laissant ressortir tous ses énormes muscles. Ainsi, Drago s'est joué de nous et part dès lors à la conquête du monde. Heureusement, Drago n'était pas enfermé tout seul. En effet, le joueur ou la joueuse va aussi faire la rencontre de Ring, qui est donc l'esprit de l'anneau et qui va aussitôt nous prendre comme apprenti et va devenir notre arme et notre outil pour le reste de l'aventure.
Partons à la poursuite de Drago!
Sur ce, l'aventure commence. Nous progressons au fil de chapitres remplis de différents niveaux. Dans ces niveaux, nous nous déplaçons à la manière d'un rail shooter comme un House of the Dead. Sauf que pour avancer, il faut courir sur place dans la vraie vie. Le Ring-Con, quant à lui, peut être pressé ou pour tirer des rafales d'air pouvant briser des caisses renfermant des pièces d'or qui nous permettra d'acheter de nouveaux équipements influant sur notre puissance d'attaque ou notre capacité défensive. Il est aussi possible d'étirer l'anneau afin d'aspirer des ressources qui traîneraient sur les côtés du parcours comme des ingrédients pour réaliser des smoothies visant à améliorer nos compétences de combat ou nous soigner. Et oui, il y a de la bagarre dans Ring Fit. Bon, au grand dam de Monsieur Loubert, c'est du tour par tour comme dans un Dragon Quest, lui qui préfère des titres dans lesquels on est actif. Mais rassure-toi Nicolas, nous sommes actifs. En effet, dans ces combats placés sur le circuit des différents niveaux du jeu, nous affrontons différents monstres parodiant des accessoires de sport. Ainsi, il faudra faire face à des globalons, des crabaltères ou encore des tekelbels. Oui, les traducteurs Laurent Gonino et Jean-Paul Haussmann se sont fait plaisir. Bref, ces monstres peuvent être de différentes couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. Chaque couleur correspond à un type d'attaque qui nous est offerte. Ces attaques sont en fait des exercices physiques à réaliser pour infliger des dégâts à nos adversaires. Ces exercices sont donc rattachés à une couleur qui est associée aussi aux parties du corps sollicitées par l'attaque. Le rouge correspond aux bras et à la poitrine, le jaune au dos et aux abdominaux, le bleu aux jambes et le vert, c'est du yoga, une nouvelle preuve que c'est sportif. Vous infligez des dégâts à chaque fois que vous réussissez une répétition. Ainsi, un squat va asséner par exemple 15 points de dégâts, et selon le niveau d'intensité que vous avez choisi avant de commencer votre session de jeu, vous pourrez faire un certain nombre de répétitions par attaque. Ça, c'est le cœur du titre, et donc Ring Fit Adventure, c'est un véritable jeu d'aventure avec des combats possédant un petit aspect stratégique, mais surtout qui nous implique réellement dans les affrontements. Pour ce qui est de l'histoire, ça ne va pas plus loin que Drago est méchant et on lui court après pour le défaire. Alors, on rencontre quand même 4-5 personnages secondaires, mais rien de très prenant. Ceci dit, c'est un bon contexte pour offrir des décors très jolis ainsi que de nouveaux exercices. Imaginons que je suis en train de courir à flanc de montagne et qu'un rocher me barre la route. Eh bien, il me suffira de le briser en pressant le Ring-Con contre mes puissants abdos. Bref, Ring Fit, c'est étonnamment bien. L'œuvre se sert parfaitement du sport comme outil pour nous impliquer dans les combats, et surtout, le titre est beau à regarder. Sans rire, je sais qu'on est sur Switch et que c'est un rail shooter, mais avec cette direction artistique cartoonesque et très colorée, on ne peut pas s'empêcher d'apprécier l'atmosphère du jeu. D'autant que la bande-son offre des petites variations dans ses morceaux d'ambiance qui, par instant, la rendent encore plus énergique. Voilà, Ring Fit Adventure, je vous le recommande si vous souhaitez passer un bon moment en jouant à un chouette titre et faire un peu d'exercice.
Le test.
Et le second test du soir, c'est avec toi, Léo.
Oui, rien à voir, on va parler de Signalis, qui est sorti en octobre 2022. C'est disponible sur Switch, PlayStation 4, Xbox et sur PC. Il est même dans le Game Pass. Raphaël fait squeak squeak, elle a enlevé ses petits trucs d'aérobic, c'est trop marrant. C'est développé par Rose Engine et édité par Humble Games. Donc c'est du survival horror créé par deux personnes, une illustratrice et un game designer, tous deux allemands, mais que cela ne soit pas rédhibitoire pour vous. Dans un futur dystopique, il y a deux nations qui se battent pour la domination d'un système solaire, il y a un empire dont on ne sait pas grand-chose, et une nation révolutionnaire dont on ne sait pas grand-chose non plus, mais qui a l'air tout aussi totalitaire. Et pour s'étendre, bah, les humains, ils envoient des vaisseaux pour trouver de nouveaux mondes habitables. Et c'est ainsi qu'on incarne Elster, une androïde qui se réveille dans son vaisseau après que celui-ci s'est crashé. On ne sait pas trop où on est, où on va, ni ce qu'on doit faire à part retrouver l'autre seule occupante du vaisseau, Alina Seo, une pilote ingénieure humaine. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le scénario, tant le reste de la narration sera volontairement nébuleux. Non, sans déconner, si vous jouez à Signalis, je vous préviens, vous n'êtes pas complètement teubé, on ne pige que dalle du début à la fin, mais c'est fait exprès. Car Signalis, c'est une histoire à propos d'un rêve, ou d'un rêve d'un rêve, enfin c'est pas clair, et vous savez quoi, on s'en fout, parce que Signalis, c'est vachement bien. C'est donc un survival horror de science-fiction, et qui nous délivre une des plus belles expériences rétro qui soit. Oui, vous mettez le premier Resident Evil et Silent Hill dans un shaker, vous mélangez bien, et hop, vous avez Signalis. Le tout se joue en vue isométrique, et on va explorer des vaisseaux, des complexes, enfin je crois, ou des laboratoires, infestés d'androïdes devenus fous, slash zombifiés, pour on ne sait quelle raison. Enfin, le jeu tente de nous l'expliquer, mais j'ai rien capté. Et on s'en fiche. On va diriger Elster, qui se traîne comme un semi-remorque, et d'ailleurs, on peut même opter pour les contrôles tanks de Resident Evil, vous savez, cette maniabilité atroce, où on fait avancer le personnage en appuyant sur la flèche du haut,
on
quel que soit
son...
C'est horrible. On y arrive, on est habitué. Taisez-vous, Nicolas. Elster, qui est en bonne victime de la mode patriarcale du futur, a des poches faméliques. Et oui, comme dans un jean que porte Mélissa, par exemple, c'est comme dans Resident Evil, on ne peut transporter que 6 objets. Vous voulez un flingue ? Pouf, ça vous prend un emplacement. Vous voulez en plus les munitions qui vont avec ? Un deuxième emplacement. Et oh, les petits choux, ils veulent aussi un petit pack de soins. Eh ben, prenez-le, mais il vous reste plus que 3 emplacements et bon courage avec les clés
à trouver. Et si on enlève le jean, c'est bon ?
Si t'enlèves le jean, tu meurs. Et si vos poches sont pleines, eh ben, il faudra faire des choix. Le choix de détruire des ressources ou alors faire des allers-retours avec les salles de sauvegarde où se trouve un coffre de stockage. On va donc devoir planifier et optimiser nos déplacements en fonction de la place de notre inventaire pour ne pas manquer une clé qui nous ferait avancer dans l'histoire, par exemple, tout en essayant de rester en vie, car les ennemis sont nombreux et coriaces dans Signalis. Certains sortent du sol, d'autres rôdent dans les couloirs, certains vous coursent comme des tarés, d'autres ont des boucliers pour se protéger, le bestiaire est varié et surtout vous n'aurez évidemment pas assez de munitions pour tous les affronter. Il faudra être furtif pour pas se faire repérer, maintenir la visée pour essayer de faire des one-shots et courir comme un dératé vers la prochaine salle en laissant les ennemis derrière nous. Parce que oui, ils sont cons, ils savent pas ouvrir des portes et c'est tant mieux. Ennemis qu'il faudra brûler si on veut pas les voir se relever 5 minutes plus tard, ce qui nous ferait les affronter à nouveau et nous faire dépenser de précieuses munitions. Tiens, est-ce que je vous ai dit qu'on dégainait avec la gâchette gauche et qu'on tirait avec la gâchette droite ?
Non, tu nous l'as pas
comme
dit.
Dans Resident Evil, c'est un truc de fou, un truc de ouf. Vous l'avez compris, la structure du jeu est très simple. On explore des environnements pour compléter la carte, on optimise nos déplacements et notre inventaire en se frayant un chemin dans les couloirs hostiles, on récupère des clés et on fait des énigmes pour débloquer des passages, exactement comme Resident Evil ou Silent Hill. L'inventaire réduit est là, les salles de sauvegarde aussi, et on pourrait se dire qu'on n'a pas envie de s'infliger ça en 2023, ou alors on pourrait rejouer directement au premier Resident Evil. Mais là où Signalis brille, c'est dans son rythme, et c'est ce qui rend cette expérience rétro absolument délectable. Car le déroulement des aventures d'Elster est très équilibré. On va plus ou moins faire la même chose tout du long, découvrir une zone, l'explorer de fond en comble, récupérer tous les éléments clés et les nombreux documents écrits pour piger un bout de scénar ou pas, et déverrouiller la grosse porte qui mène à la zone suivante, etc. Mais dans cette structure, Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lourdeur, et même si les allers-retours sont nécessaires, ils ne sont pas là pour punir le joueur ou le ralentir dans sa progression ou rallonger la durée de vie. Dans les vieux Survival Horror, par exemple, on peut passer des heures à faire des allers-retours, à explorer des salles ou à lutter contre des zombies sans réellement progresser. Dans Signalis, on récupère toujours une clé, un élément important, ou on résout toujours une énigme à un intervalle régulier. Et du coup, on s'ennuie jamais. Encore mieux, on a toujours l'impression de progresser et on a tout le temps envie de continuer. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas face à un plagiat ou à un simple jeu hommage. Signalis, c'est un jeu qui nous fait revivre une expérience qu'on a connue dans les vieux jeux vidéo, mais telle qu'on s'en souvient aujourd'hui, sans les lourdeurs qu'on tolérerait à l'époque. Si finalement tout un confort de jeu qui habille Signalis, de la maniabilité à l'interface, en passant par les graphismes. Tout caresse le joueur dans le sens du poil, et je vous ai pas parlé des graphismes évidemment, tout en low polygone comme un jeu PlayStation 1, mais avec de belles animations et des effets visuels plus modernes. Bref, on comprend rien à Signalis, mais on est englouti dans son ambiance sombre et pesante. C'est pas un jeu qui fait peur, hein, mais l'ambiance elle est vraiment là, c'est finalement comme un manga de Tsutomu Nihei, l'auteur du manga Blame. C'est beau, c'est agréable à suivre, on pige que dalle, mais on passe un bon moment. Et pour 20€, on a un survival horror qui nous fait revivre le passé, avec le confort des jeux récents.
Merci beaucoup, c'est la fin de ce gros stick.
Et merci à tous.
Voilà. Et par contre, on se retrouve dans 15 jours.
Ouais.
Et tout de suite après, c'est Passeport. On se quitte avec le générique de fin. C'est normal, ça.